Générique.
Bonjour, bonjour à tous. Un nouveau générique s'ouvre avec encore de très très bons films. Alice au pays des colons de Yanis Mamdi. C'est un documentaire du Nord 45. Yanis Mamdi, journaliste de son état, a été arrêté et emprisonné à Tel Aviv, puis libéré et extradé en Jordanie. Ensuite, il a fait son retour sur le sol français et il s'est penché sur ce documentaire. Il ouvre son document en nous faisant suivre Alice Kissia, une jeune palestinienne née à Bethléem et qui a double nationalité avec celle israélienne. Elle veut récupérer le terrain de ses parents qui avaient leur maison et leur restaurant détruits plusieurs fois, toujours remis sur pied. Quand elle arrive sur son terrain, il est occupé par une bande de futurs colons dressés comme des chiots, avec la tête aussi vite que leur bêtise est grande. Aidés par l'armée, ils se sentent les pleins pouvoirs et chassent Alice et ses camarades Manu Militari. Ces chafouins du pouvoir en place font valoir que ce terrain leur appartient, qu'ils sont chez eux, que l'on ne pourra pas les déloger, aidés qui sont par l'armée qui arrive à leur secours, armée jusqu'aux dents, sur l'ordre d'un pouvoir qui dicte la colonisation à outrance dans l'ombre et qui passe aux yeux du monde pour des martyrs. Yanis Mamdi, dans le même temps, montre des ouvriers palestiniens qui peuvent plus travailler. Leurs terres leur ont été spoliées, leur maison est dans le viseur des colons. Yanis fait parler à la Nars, qui vit dans le nord de la Cisjordanie, à Madama, qui préfère mourir que de leur laisser quoi que ce soit. L'occupant veut tout engloutir pour faire table rase, pour reconstruire des colonies sionistes. Les oliviers sont détruits au fur et à mesure qu'ils poussent. Cela donne une impression d'étouffement. L'armée et les colons donnent une impression de laisser tomber sous une forme d'enlisement. Et frappés pour signaler qu'ils sont toujours dispo à venir chercher leurs terres, que les Palestiniens ne veulent pas leur donner. La seule ressource qu'ils ont aux yeux du monde, cela paraît normal. Quand un type comme Itamar Ben Givri, qui se gargarise avec du mousseux pour la peine de mort uniquement aux Palestiniens, et que cela ne pose aucun problème à personne, c'est presque normal. On lui apporterait presque une autre bouteille. Alice explique qu'elle a pris la nationalité israélienne pour pouvoir circuler autrement. Elle serait arrêtée sans arrêt. De même, quand elle est arrêtée, elle est relâchée instantanément. Cela me fait penser au cinéaste et collègue Michel Cleffy, qui est palestinien, chrétien. Et pour pouvoir continuer à travailler et voir sa famille, il a été obligé de prendre la nationalité israélienne et pouvoir naviguer entre la Belgique, où il s'est réfugié, et la Palestine. Yanis Mamdi, dans son document, fait se croiser deux jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui luttent pour la même cause, dans le même pays, dans deux lieux différents, avec le même espoir, retrouver leur pays et vivre correctement et libre de tout oppresseur. Surtout, à ne pas rater, cela vous donnera à voir ce que la télé vous cache. Il faut juste noter que Yanis Mamdi est un journaliste.
Générique.
À voix basse. De Leila Bouzzi, 1h50 saturée. Ce film était à la Biennale 2026 en sélection officielle. Il était au Festival des écrans mix, toujours en 2026. Leila et Alice sont en voiture, direction la Tunisie. Leila revient pour les funérailles de son oncle, qui est décédé dans des circonstances bizarres. Elle voudrait en savoir plus. À Paris, Alice et Leila vivent ensemble sans que personne n'en sache quoi que ce soit. La maison de la grand-mère est pratiquement habitée que par des femmes, entre ses tantes et sa mère. Des flashbacks font revenir Leila, enfant, dans ses rues avec ses cousins, ses cousines, ses voisins, ses voisines. Leila se gare sous la maison de la grand-mère et monte dans la maison. Leila est très bien reçue. Elle pose des questions d'usage sur le décès, sert à boire à la famille qui est venue pour les obsèques. Quand un homme se présente et demande à voir l'oncle, Waïda, la mère de Leila, l'accompagne jusqu'à la chambre de son frère. Le monsieur s'incline et lui parle comme s'il était là, puis se penche et l'embrasse. Tout le monde est surpris, ne dit rien. Leila et Waïda raccompagnent ce monsieur, commencent à se poser des questions. Leila comprend très vite la situation. L'oncle aurait des relations homosexuelles. Les femmes présentes, elles, ne disent rien. Les amis et membres de la famille viennent enlever le corps pour l'emporter, pour être enterré. Leila va rejoindre Alice à son hôtel, voir comment elle est installée. Elle lui explique la situation, ce qui n'offusque pas Alice. Le lendemain matin, au petit déjeuner, des personnes sonnent à la porte d'entrée. Une des filles descend voir la police. La grand-mère se couche pour simuler qu'elle est malade. Les deux policiers viennent pour expliquer et comprendre le comportement de l'oncle. Et aussi, sa mort suspecte dans la rue, rouée de coups, peut-être due aux circonstances personnelles. Très vite, Lilia s'aperçoit que tout le monde était au courant pour l'homosexualité de l'oncle. Mais, par peur de scandale, le silence était roi. Quelque part, Lilia se retrouve dans la même situation. Elle est homo, mais surtout ne veut pas l'ébruiter. Lilia cherche à retrouver l'homme qui est venu voir l'oncle pour lui parler de la situation et surtout lui expliquer qu'elle la comprend. Il se donne rendez-vous sur une terrasse de bistrot où une conversation prend forme. Il lui explique qu'ils avaient une relation depuis un sacré bout de temps. Le jour d'une réception, Alice débarque dans la famille de Lilia qui ne sait plus où se mettre. Lilia présente Alice à sa mère comme sa colocataire à Paris. La grand-mère n'est pas dupe, comprend très vite la situation et prend Alice en sympathie. À part la mère de Lilia, tout le monde l'a bien pris. Leila Bouzzi réalise un film sublime. Elle ose parler d'un sujet tabou, voire interdit en Tunisie. Elle pousse le bouchon quand Lilia et Alice, quand elles sortent le soir, prennent un verre. Sans spécialement parler de leur homosexualité, les dialogues qu'elles entendent autour d'elles deviennent vulgaires, même avec les personnes qui les accompagnent, qui ne comprennent pas les homos, les comparant à des maladies. D'autres, plus progressistes, acceptent les faits. Leila Bouzzi pose aussi le problème dans le cadre familial, où c'est le contraire. L'on connaît, l'on sait, mais l'on ne dit rien. Par contre, l'on va dire d'aller voir, c'est vraiment un film important, sérieux, et où le soleil brille, il y a encore des zones d'ombre. Leila Bouzzi est née le 11 octobre 1984 à Tunis. Elle a une filmographie pas gigantesque, puisque en 2006, elle a réalisé Jack et Kirk, c'est un court-métrage. En 2010, Un ange passe, court-métrage également. En 2011, Soubresaut, court-métrage. En 2013, Zakaria, c'est un moyen-métrage. En 2013 également, Gamine, c'est un court-métrage. En 2015, À peine j'ouvre les yeux, c'est son premier long-métrage. En 2021, Une histoire d'amour et de désir. Et en 2026, À voix basse, le film qui nous occupe aujourd'hui et qu'il faut absolument que vous vous précipitiez le visionner.
Générique.
Nous, l'orchestre de Philippe Bézia, avec Klaus Maïkela, 1h30 sa durée. Ce film a obtenu l'OIAD 2025, prix du public. Il a obtenu le prix du meilleur documentaire musical en 2025 au festival de FIPADOC. Philippe Bézia nous fait rentrer dans l'orchestre de Paris, pas pour jouer, mais pour écouter, regarder. Et là, nous sommes totalement impressionnés par l'unisson de toutes ces personnes qui donnent la sensation de ne pas se connaître. Ils jouent ensemble le même morceau, comme nous, nous ouvrons ou fermons la fenêtre. Tous ces personnages sont sous la houlette de Klaus Maïkela, un jeune chef d'orchestre. Vu comme cela, le film peut vite devenir banal. Or, Philippe Bézia va doucement approcher les musiciens sans leur donner la parole. Nous les voyons hors concert. Une dame explique pourquoi elle joue dans cet ensemble. Ensuite, nous allons approcher les musiciens par rangée et instruments, en les voyant de près préparer leur violon, leur basse, leur trompette, leur cor, etc. L'orchestre reprend son entraînement. D'autres musiciens viennent expliquer leurs sensations du moment et pourquoi ils jouent de tel instrument dans un tel orchestre. Philippe Bézia montre aussi les faiblesses, les doutes, toutes leurs petites manies et objets pour jouer au plus près et au mieux leurs partitions. Nous revenons sur les rangées en particulier. Et là, nous approchons de plus près les musiciens par catégorie et l'harmonie de chacun apporte à son voisin sans spécialement prendre contact avec lui. C'est là que l'on s'aperçoit que ces musiciens sont des virtuoses. Anonymes, ils se glissent dans la partition du voisin sans spécialement en discuter auparavant. Dans le documentaire, il y a des changements de chef d'orchestre. La seule chose qui ne change pas, c'est la virtuose des musiciens, qui est impressionnante, presque naturelle et dans une profonde modestie. Documentaire à ne pas rater, vous passeriez vraiment à côté de quelque chose de rare. Vous n'allez pas venir voir un orchestre jouer ou répéter, il y a beaucoup plus que cela. Philippe Bézia est réalisateur, scénariste. Jusqu'à maintenant, il a fait que des documentaires.
Générique.
Tsum Tsum, la nuit des astres, est un film de Mahama Salem Haroun. Il est d'une durée de 1h40. Il était à la 76e Berlinade 2026. Il a obtenu le prix Fibreski. Elou vit avec son père dans un petit village du Tchad. Il s'est remarié à la mort de sa femme, la mère de Kelou. Il a eu un autre enfant. Yarba, le père de Kelou, n'est pas du village. Il vient d'ailleurs, il est accepté par son travail et sa justesse, qu'Elou possède comme un don. Elle voit et prédit l'avenir, sans pour cela être en quoi que ce soit divine. Elle n'en parle à personne. Elle découvre ce bienfait doucement, par des faits de temps en temps. Qu'Elou voit une petite troupe de mendiants handicapés qui se rapprochent d'elle et l'image s'efface. Elle essaye d'en parler à son futur fiancé, Baba, qui lui ne voit rien et surtout ne comprend rien. Dans le village, il y a Yaa, une jeune maudite qu'il faut chasser. Elle porte le malheur. Elle est à l'origine de la mort de nouveau-nés. Soit elle quitte le village, soit on la tue. Qu'Elou la regarde par-dessus un mur de sa cour. Yaa a l'air totalement inoffensive. Elle va même jusqu'à lui parler, lui demande si elle est malade. Yaa tousse beaucoup. Qu'Elou rentre chez elle, lui demande si elle a besoin de quelque chose. Les villageois jettent des pierres à Qu'Elou. Yaa soigne Qu'Elou, qui a reçu une pierre sur le front. Une amitié se forme entre elles, ce qui n'est pas du goût de son père, qui lui demande d'éviter d'aller chez Yaa. Sa collègue de cour ne se détourne pas de Qu'Elou, mais lui dit de faire attention. Elle se met le village à dos. Même Baba, qui lui avait juré fidélité, la laisse tomber au nom de l'islam et de son père, qui lui a donné un ultimatum. Qu'Elou trouve en Aya une sagesse qu'elle n'avait pas auparavant. Elle se pose des questions sur la mentalité du reste du village et de leurs idées rétrogrades. Qu'Elou, un jour de cour, et qu'elle avait passé la nuit chez Aya, et le soir à contempler les étoiles, ne peut plus répondre au professeur, tombe dans un coma éthylique, comme si elle était ivre. On l'emmène d'urgence à l'hôpital, rien n'y fait, on la recouche sur son lit. D'un coup, comme une décharge, elle saute dans tous les sens et va chez Aya, qui est décédée. Elle va vouloir l'enterrer, personne ne veut prendre cette responsabilité. Mais avant cela, il y a le lavage du corps qui est encore plus compliqué, personne ne veut la toucher. Qu'Elou ne sait pas faire, il faut une femme volontaire, s'en suivra l'enterrement qui ne sera pas non plus une mince affaire. Mahama Salem Haroun réalise un film simple et à la fois compliqué, dans le sens qu'il parle d'un sujet relativement limpide, d'une jeune fille ordinaire qui observe ses contemporains comme ils vivent, comme ils se reconstruisent après la tempête qui a suivi et qui fait beaucoup de dégâts. La reconstruction sera longue et difficile. Qu'Elou regarde aussi les coutumes qui sont toujours en vigueur et peut-être d'un autre temps. À ses yeux, le patriarcat qui décide, qui gouverne, la religion qui n'est pas loin pour ne pas être comprise, Aya représente le mal, l'apparence sans connaître le contenu. Cela s'appelle la bêtise humaine. Yaa, il laissera sa vie. Film à ne pas rater. Il faut noter que Mahama Salem Haroun est né en 1961 à Abéché, au Tchad. Il est scénariste et il est réalisateur. Il a une filmographie relativement importante. Et il faut noter que son dernier film est en 2026, Somsum, la nuit des astres, le film qui nous occupe aujourd'hui et qu'il faut absolument visionner. C'est vraiment un film très très intéressant.
Générique.
Les fleurs du manguier de Akio Fujimoto, 1h40 sa durée. Ce film était à la Mostra de Venise 2025. Il a obtenu le prix spécial du jury Horizonti. Akio Fujimoto réalise un film pour montrer une situation et une espérance. Lâcher deux petits-enfants sur les routes du Bangladesh quand on a 9 ans et 4 ans pour partir à la recherche de leur famille. Ce n'est pas un jeu avec pour détour par la Thaïlande via la Malaisie. Il y a aussi mieux comme situation de vacances. D'emblée, Akio Fujimoto ne facilite pas le voyage déjà périlleux de Shafi et de Somira. Cette dernière est souvent obligée de porter son petit frère sur ses épaules pour avancer plus vite. Le voyage est une chose, mais il faut manger pour pouvoir continuer. Pas grand monde leur offre cette aubaine. Somira vole des maïs dans les champs pour se faire un semblant de nourriture. Boire est plus facile. Il y a des fontaines. Somira et Shafir trouvent une vieille charrette délabrée. Somira la récupère pour mettre Shafir dedans. Cela lui fait moins lourd à porter. Et comme cela, ils font plus de chemin. Elle pense mettre des morceaux de bois pour le feu du soir. Des maïs récupérés sur le bord de la route. La charrette les aide bien. Un abri pour la nuit. Mais vu de son état, l'aide va vite être éphémère. Somira et Shafir verront-ils le bout de leur aventure, contraintes de leur quête personnelle et familiale? Somira et Shafir, déjà qu'ils sont issus d'un peuple sans nationalité ni citoyenneté, leurs parents les attendent-ils toujours ou les pensent-ils dans un autre monde? Somira et Saphir sont emmenés sans savoir l'issue du voyage. Saphir regarde l'eau qui entoure le bateau comme de liberté, malgré qu'il soit enfermé. C'est aussi en cela que le film de Akiko Fujimoto est une dureté froide. Ici, même les enfants, par leur parcours, s'infligent le fait d'être rien, de venir de nulle part. Leur enfant ne compte pas. Pourtant, une fois les jeux et les petits accrochages enfantins, le frère et la sœur sont comme les doigts de la main. L'un aide l'autre et vice-versa. La douleur est moins dure. Le film intimiste, super intéressant, les jurés de Venise ne s'y sont pas trompés. Ils n'osent pas regarder le côté commercial de la chose. Ils ont primé une œuvre et non pas un produit. L'on ne peut pas sortir de la salle en disant « c'est intéressant ». J'espère que ce film aidera à ne pas oublier l'importance de la gentillesse. Akio Fujimoto est né le 15 mars 1988 à Osaka. Il est réalisateur, il est scénariste. Alors il a une filmographie toute petite puisqu'en 2012 il a réalisé Psychedelic Family, c'est un court-métrage. En 2017 Passage of Light. En 2020 Le Long de la Mer. Et en 2025 Les Fleurs du Manguier, le film qui nous occupe aujourd'hui et qu'il faut absolument que vous visionniez.
Générique.
Caravane. De Sunana Kishoravapidova, 1h40 sa durée, ce film était au Certain Regard 2025. Sunana Kishoravapidova est venue à Cannes présenter son premier long métrage, film d'apparence simple d'une mère qui s'occupe de son fils David, légèrement déficient mental, qui ne supporte aucune contrariété. Esther essaye de lui donner une vie des plus normales. Elle l'emmène en Italie en vacances, au bord de la mer, en camping-car. Des amis qui ont une grande maison avec une piscine lui font profiter des communs jusqu'au jour où David prend une crise et casse une partie des jouets des deux filles, renverse les plantes de l'intérieur de la villa. Le couple encaisse le coup. Les filles demandent qu'il parte. Esther intercepte une conversation du couple qui voudrait lui donner de l'argent pour qu'une personne vienne s'occuper de David. Esther ne supporte plus que l'argent puisse décider de tout. Elle rassemble ses affaires et part avec David sur les routes. Dans un supermarché, ils feront la connaissance de Zusa, une jeune punk revenue de tout. Esther les dépanne, leur véhicule ne veut rien entendre. Au moment de repartir, Zusa demande à Esther si elle peut rester avec eux. Esther n'y voit aucun inconvénient. David est ravi. Quand sa mère conduit, il y a quelqu'un à côté de lui. Esther est contente que David se sente mieux. Il plaisante avec Zusa. Zusa qui lui fait pas toujours faire ce que le jeune homme de son âge devrait faire. Elle ferme les yeux. En même temps, ils font du chemin. Ils manquent d'argent pour mettre du gasoil dans le van. Esther est obligée de trouver des petits boulots dans une entreprise de ramassage de fruits. Elle répare des cagettes. Le gérant a des vues sur elle. Le temps passe. Un jour, Zusa n'est plus là. David prend un choc. Esther lui fait comprendre qu'elle a fait un bout de chemin avec eux. Elle lui a laissé son portable. Elle a laissé aussi de l'argent pour qu'il puisse continuer. Un matin, David n'est plus là. Sunana Kishoravapidova parle de cette femme seule qui élève un fils malade que personne aide. Les vacances sont un prétexte pour être parti de chez eux. Plus rien ne les retenait. Retrouvons-ils un point de départ? Rien n'est moins sûr. Esther a l'air d'avoir fait le tour de cette escapade. Pour elle, était une fenêtre sur une forme de liberté. David, qui soit à gauche, soit à droite, c'est la même chose. L'aventure qu'elle a avec son employeur aurait pu durer et elle serait installée de ce côté-ci de l'Europe. Dans l'ensemble, on lui donne pas beaucoup de chance. Elle part du point A, il faut qu'elle revienne au point A. Film à ne pas rater, film rare. Il faut noter que Suzanne Sunana Kishoravapidova est née le 29 avril 1978 à Sokolov, c'est en Tchéquie. Elle est réalisatrice, elle est scénariste. Elle a une très très grande filmographie, surtout basée sur le court-métrage et le documentaire. Et il faut noter que Caravane, c'est seulement son premier long-métrage qui a été présenté donc au Certain Regard à Cannes l'an passé.
Générique.
Pour le meilleur, c'est un film de Marie Castille, mention Char, 1h45 sa durée, c'est tiré de l'œuvre de Philippe Roison. Le film s'ouvre sur un homme qui est sur un toit de sa maison. Il enlève son antenne de télé. D'un coup, il glisse, l'antenne se prend dans les fils électriques qui passent au-dessus de sa maison, il tombe. La scène suivante, on le retrouve sur un lit d'hôpital emmailloté dans des gaz, des pansements en tout genre. On retrouve Philippe quelque temps plus tard chez lui. Apparemment, sa femme lui a fait faux bond. Il se retrouve avec une femme de ménage qui lui prépare ses repas, change ses draps, le douche, l'amène aux toilettes, change ses serviettes de toilette, lui prépare ses vêtements. Le reste, il se débrouille. Il faut savoir que Philippe n'a plus de membres supérieurs ni inférieurs. Il passe du temps sur son ordinateur. Il a décidé de répondre à des annonces de jeunes filles, jeunes femmes, amoureuses, échec assuré à chaque tentative. Un jour, une réponse lui arrive. Une agricultrice qui élève des chèvres, Susanna. Le lendemain, elle lui répond de nouveau. Philippe est surpris et il pense à une blague. Pour juger d'une plaisanterie ou non, Philippe dit à Suzanne de venir prendre le café le lendemain. Elle se présente au rendez-vous. Philippe est scotché. Rosie, la dame de ménage qui avait tout préparé, s'en va et les laisse seuls. Il parle, lui explique son accident rapidement. Il lui demande s'il peut l'aider à aller aux toilettes sans problème. Susanna repart pour s'occuper de ses chèvres, mais explique qu'elle reviendra. Une amitié se forge entre eux, voire plus. Susanna, qui a été mariée avec une brute qui refuse de divorcer, a 3 enfants. Elle trouve en Philippe l'opposé de son mari, quelqu'un de doux, simple, avenant. Même ses enfants le reconnaissent presque pour leur père, tellement cela les change. Philippe, un jour, par dépit et défi, annonce qu'il va traverser la Manche à la nage. Lui qui ne sait à peine nager, il va voir le maire pour avoir un morceau de la piscine pour faire son entraînement et la monitrice Valérie Mortureux qui le prend pour un malade mental. Il ne peut pas faire une largeur. Marie Castigne, mention char, par une histoire réelle puisque l'histoire de Philippe Croizon qui est au scénario. Le souci du film est qu'il est bouclé d'avance et surtout il est trop long et répétitif. On perd vite pied dans les méandres de cette histoire. De plus, il y a certains acteurs qui traînent leur misère. Je pense à Sandrine Bonner qui a l'air de s'ennuyer. Ne parlons pas de Zedine Souliman, c'est lamentable. L'on se demande ce qu'il fait là. Le second moniteur de natation n'est pas triste non plus. Heureusement qu'il y a Corinne Massero qui de son côté dernière de la classe et Bougon est remarquable. Et aussi les deux principaux, Pierre Rabine et Lily Fleur Pointeau, qui sont exceptionnels. Film à voir pour le sujet et loin d'être le film qui bougera les foules. Marie Castille, mention char, est née le 26 janvier 1963 à Paris. Elle est réalisatrice, scénariste. Alors, elle a une filmographie assez importante aussi. En 2012, Ma première fois. En 2012, toujours Bowling. En 2014, Les héritiers. En 2016, Le ciel attendra. En 2018, La fête des mères. En 2020, The Good Man. En 2021, H24. C'est un film pour la télévision. En 2023, Divertissement. Et en 2026, Pour le meilleur, le film qui nous occupe aujourd'hui. Allez-y, vous apprendrez à nager.
Générique.
La poupée de Sophie Boislieu. 1h20 sa durée. Ce film était au Festival du film francophone d'Angoulême en 2025. Il était au Festival international du film de la comédie de l'Alpe d'Huez en 2026. Pour son premier film, Sophie Boislieu ne renversera pas les montagnes avec une histoire banale et jouée d'avance. De Rémi, un homme refoulé qui a toutes les peines du monde à réaliser la séparation qu'il a subie avec son premier amour d'école primaire jusqu'à ses 25 ans. Ce choc l'a fait pencher pour une conquête beaucoup plus simple. L'achat d'une poupée qui mange en face de lui, qui dort à côté de lui, qui regarde la télé à côté de lui, qui ne le contredit jamais. Et Rémi est heureux. Le seul souci sont ses collègues de bureau qui lui parlent de sa femme, mais qui ne l'ont jamais vue. Un soir que Rémi regarde la télé et s'endort devant. À son réveil, Audrey, sa poupée, n'est plus là. Il la cherche de partout. Elle est sagement endormie sur leur lit. Quand Rémi arrive, elle lui dit « Tu as mis du temps pour venir te coucher ». Rémi prend peur, va chercher un couteau, appelle la police, sa sœur. Audrey ne lui veut aucun mal, c'est sa femme. Le lendemain, il va au travail totalement défait. Ses collègues lui demandent ce qu'il s'est passé, dit que sa femme est malade. Le soir qu'il rentre, Audrey est étendue sur le gazon de la maison. Elle lui demande une paire de clés. Elle repasse, fait le ménage, à manger. Rémi est soufflé. Ils dorment ensemble. Le matin, il a des difficultés à se lever. Il est totalement métamorphosé. Sa sœur ne comprend plus rien. Rémi décide de l'emmener chez ses parents. C'est le coup de foudre malgré les quiproquos. L'idylle s'épuise. Audrey est reconnaissante vis-à-vis de Rémi. Le train-train l'accable. Un jour qu'il rentre du bureau, Audrey est redevenue poupée. Sophie Boislieu veut faire une histoire d'amour à 3 personnages. Le souci, ce sont les personnages. Seule Cécile de France, en Patricia, ne prend pas la tête. Elle réussit son parcours. Vincent McKen rame dans un jeu déjà joué, qui en devient pénible. Zoé Marshall, en poupée, les dés sont pipés. L'on devine très vite qu'elle va se mouvoir et semer le doute et la panique. Ce film était au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez. avant de faire un festival, il faudrait faire de véritables comédies. Car tout ce que l'on a visionné jusqu'à ce jour, c'est un véritable fiasco. Excepté peut-être un film avec un titre qui peut donner à penser que l'on va se frôler la catastrophe. Et pour l'instant, c'est le plus réussi. Police Flash 81. La poupée, premier film. Il y a d'autres films à voir avant. Vous êtes seul juge. Ce premier film de Sophie Beaulieu, qui est réalisatrice et scénariste. Son premier était en 2012, Whisky Août, court-métrage en 2013, De Notre Monde, court-métrage 2017, Je n'ai pas tué Jesse James, c'est un court-métrage, et en 2020, Salem, court-métrage, et en 2025, La Poupée, le film qui nous occupe aujourd'hui. Mais vraiment, 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 si vous avez tout vu. Ce générique se clôt, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore de très bons films.
Générique.